La terreur scientifique.
C'est goûtu, hein. Ça a du retour.
La rigueur du savoir, la passion du comptoir. Un jeudi par mois à 20h. Sur Radio Campus Paris.
Bonne santé, les gueux. Bienvenue,
Munich. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 17 juillet, il est 20h01 et vous êtes en train d'écouter votre émission de vulgarisation scientifique préférée, l'Happy Hour Scientifique sur Radio Campus Paris.
Ça fait quelque temps que de curieuses petites molécules font leur comeback dans la médecine. Les psychédéliques. Vous voyez ce que c'est ? LSD, psilocybine, mescaline, DMT. Et oui, je dis bien leur comeback et non pas leur entrée. Parce qu'il fut un temps où les recherches scientifiques sur le sujet foisonnaient.
Mais l'histoire a pris un certain tournant prohibitif. Et l'exploration du potentiel thérapeutique de ces molécules, qui, disons-le tout de suite, ne sont pas non plus l'antidote à tous les maux, s'est arrêtée. Jusqu'à tout récemment, où nous entrons désormais dans la dénommée renaissance psychédélique. Mais que s'est-il passé ? Que savons-nous aujourd'hui de l'histoire de l'usage médical de ces substances ? Et qui étaient les personnes qui travaillaient avec les psychédéliques dans le passé ? Nous le verrons, certaines femmes dont les contributions étaient essentielles au domaine ont été oubliées, comme cela arrive bien trop souvent. Et pour nous parler de tout ça, on a le bonheur d'accueillir une spécialiste du domaine, Zoé Dubu, docteur en histoire de la médecine, qui est avec nous à distance. Bonsoir Zoé.
Bonsoir.
Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Autour de la table, il y a Sacha en co-animation avec moi.
Salut.
Luna qui va nous abreuver avec des gorgées de science sur les résultats des études cliniques sur les psychédéliques.
Bonsoir.
Thomas accompagné de Sian à distance.
Salut.
Qui vont nous parler du tourisme psychédélique et Cléo.
Salut.
Pour nous faire jouer à l'incontournable Caps ou pas Caps sur le thème des musiques psychédéliques. Et enfin, Jocelyn et Chiara à la technique. Merci à tous et à toutes d'être là. Et avant de plonger dans le vif des discussions, place au shot à l'invité.
Pour commencer, on va prendre un petit shooter du bar.
Alors, ou vous suivez votre intuition, ou vous vous dégonflez.
Et du coup, on trinque à la tienne.
Zoé, donc ouais. Le concept est simple. On va avoir une minute où je vais te poser des questions à réponse courte et tu dois répondre le plus rapidement possible. C'est OK?
Yes.
Allez, c'est parti. On est au bar, c'est l'Happy Hour. Qu'est-ce que tu commandes?
Ah, tu me poses pas un truc ou un truc, il faut que je réponde direct.
Il y aura
une limonade.
Une limonade, ok. Plutôt LSD ou champignon?
LSD.
France ou Canada?
Oh, France.
Festival ou rave party?
On va les dire celle-là. Festival.
En thérapie, mieux vaut le modèle psychédélique ou psycholytique?
Psycholytique.
En politique, plutôt répression ou réduction des risques?
Réduction des risques.
Michael Pollan ou Eric Haddick?
Ouh là là, Eric Haddick.
Albert Hoffman ou Aldous Huxley?
Huxley.
Plutôt psy-trans ou rock psychédélique?
Psy-trans.
Et set and sitting ou bad trip?
Set and sitting.
Merci Zoé pour ces premiers shots à l'invité. Et Ilona, je te repasse la main pour le début de l'interview.
Zoé, tu es donc historienne, spécialiste de la médecine. Et tu t'es plus particulièrement intéressée à l'histoire de l'utilisation médicale des psychotropes. Pour poser les bases et démêler les choses, est-ce que tu peux commencer par clarifier les différences entre les termes stupéfiants, drogue, psychotropes, psychédéliques ?
Oui, bien sûr. Alors c'est très bien de commencer par ça parce qu'effectivement il y a beaucoup de confusion en France, notamment sur tous ces termes. Donc le mot drogue, en gros, ça recoupe toutes les substances qui sont interdites, mais c'est un mot qui est très stigmatisé, très péjoratif. En général, les drogues, c'est les substances que moi je consomme pas et que je vais stigmatiser chez les autres. Donc c'est un terme que personnellement j'utilise jamais. Et moi j'utilise psychotrope. Psychotrope, c'est le mot qui décrit toutes les substances qui vont modifier l'état de conscience, l'humeur, le comportement. Et parmi ces psychotropes, il y en a qui sont légaux. Par exemple, le tabac, l'alcool, le café, c'est des psychotropes qui sont légaux. Il y en a qui sont illégaux, c'est les stupéfiants. Donc un espèce de synonyme de drogue. Et parmi les stupéfiants, il y en a qui sont aussi des médicaments. Donc, ils sont interdits à la consommation pour le grand public, mais par contre, il y a des médecins qui peuvent les prescrire. Par exemple, la morphine, la kétamine, c'est des stupéfiants, mais c'est aussi des psychotropes. Il y a des psychotropes, des médicaments psychotropes aussi, des anxiolytiques, des antidépresseurs, les neuroleptiques. Tout ça, c'est des médicaments aussi.
Et donc, psychotrope, en fait, ça serait l'équivalent de psychoactif, c'est ça ?
Oui, c'est exactement la même chose. D'accord.
Et du coup, dans les psychotropes, il y a les molécules psychédéliques qui sont un peu à part, notamment parce qu'elles induisent ce qu'on appelle un effet psychédélique. Comment c'est défini cet effet-là ?
Oui, alors psychédéliques, les psychédéliques, c'est une famille de psychotropes. On a par exemple la famille des stimulants avec le café ou la cocaïne. Et il y a une autre famille qui est celle des psychédéliques. Ce terme-là, il veut dire qui révèle l'âme ou qui révèle l'esprit, parce que ça donne accès à des souvenirs, par exemple, ou à des perceptions qui sont complètement nouvelles. C'est des effets qui sont très particuliers, qui sont parfois qualifiés d'hallucinogènes. C'est pas un terme qui est très utile pour définir en fait les effets que ça produit, parce que hallucinogène, ça voudrait dire que ça produit des hallucinations, donc qu'on perçoit des choses qui sont pas là en réalité, et en plus qu'on croit à ce qu'on est en train de percevoir. Et c'est pas ce qui se passe avec les psychédéliques. Vous allez pas tout à coup voir un éléphant rose dans la pièce et vous dire oula, mais il y a vraiment un éléphant rose dans la pièce. Avec les psychédéliques, c'est plutôt des couleurs et des formes qui vont se déformer, et donc on parle en général plutôt d'effets illusogènes pour décrire ces effets perceptifs. Il peut y avoir aussi des synesthésies, ça c'est quand plusieurs sens sont associés, donc par exemple la couleur peut avoir un goût, on peut voir la musique, ce genre de choses. Et puis il y a des effets beaucoup plus introspectifs avec des souvenirs qui vont remonter, on parle par exemple de reviviscence de souvenirs, donc là c'est différent de réminiscence, on ne se souvient pas vraiment, on revit totalement le souvenir, et c'est notamment ça qui va être utilisé en thérapie.
Et alors toi du coup tu es historienne de la médecine, et au cours de ton cursus t'es arrivé à te spécialiser sur la question des psychotropes et des psychédéliques, mais je crois que c'est plus les psychotropes de façon large. Comment c'est arrivé dans ton cursus de se spécialiser là-dedans?
Moi, tout m'intéressait en histoire. J'étais passionnée partout. Je savais que je voulais faire de l'histoire sociale et culturelle, donc pas l'histoire des grandes personnalités ou des guerres ou ce genre de trucs, mais l'histoire de la manière dont les gens vivaient avant. Mmh. Et tout m'intéressait. J'avais du mal à trouver un sujet pour mon master de recherche. Et du coup, ma directrice m'a dit « Bon, qu'est-ce que vous avez lu cet été qui vous a intéressé ?» Et j'avais lu par hasard « Les paradis artificiels de Baudelaire », qui est un livre dans lequel ce grand poète français du 19e siècle raconte ses expériences au cannabis et à l'opium dans le cadre du club des hachichins, qui est, c'est des réunions mondaines qui se passent dans les années 1840. Et ça m'avait super intéressée. Et j'explique à ma prof que dans ce livre, en fait, il décrit très précisément comment se passaient ces soirées, et il ne dit pas s'il y a des femmes qui participaient à ces événements. Donc elle me dit, voilà, vous avez votre sujet, vous allez chercher s'il y a des femmes qui participaient au club des hachichins. Donc c'était génial comme sujet de recherche, mais malheureusement, c'était ma première expérience de recherche en histoire. Et ça aurait été très difficile de trouver des sources pour retrouver des femmes là-dedans. Donc finalement, très rapidement, j'ai était plutôt cherché là où il y avait le plus de sources au 19e siècle pour parler des psychotropes, et c'était des sources médicales. Donc c'est comme ça que je suis tout de suite rentrée dans l'axe médical pour étudier les usages de psychotropes, et c'est quelque chose qui m'a vraiment tout de suite passionnée, parce que ça a changé la focale qu'on pouvait avoir, qu'on a toujours d'ailleurs, de substances qui sont extrêmement dangereuses, qui vont nuire à notre santé, qui vont nous tuer, qui vont nous rendre malades. Ben là, c'était l'inverse absolu, c'était des substances qu'on utilisait pour se guérir, pour aller bien, pour être en bonne santé. Donc ce décalage-là m'a vachement intéressée, et en plus ça a aussi un impact sur la société dans laquelle je vis, et ça c'est quand même assez rare pour des historiens ou des historiennes. D'habitude, on travaille sur des sujets qui sont finis, alors que là, je peux avoir un impact pour dire, on a des représentations très négatives à l'égard de ces substances, mais c'est des médicaments, ça peut l'être en tout cas, si c'est utilisé de la bonne manière, et ça peut aider les patients d'aujourd'hui. Donc ce côté un peu militant est aussi très important dans ma démarche.
Oui, donc du coup, t'es rentré dans la médecine des psychotropes, plus par les psychotropes de base, et arrivé par la médecine que l'inverse. En quoi c'est important de faire un travail d'historienne sur l'usage médical de ces substances ?
Alors c'est important parce que ça, d'abord c'est intéressant en soi d'aller chercher l'histoire de ces produits, et puis comme c'est des substances qui ont été très stigmatisées en médecine, comme je le disais, ça a aussi eu un impact important en termes de santé publique. La substance sur laquelle j'ai le plus travaillé, moi, en réalité, c'est la morphine, c'est pas les psychédéliques. Et la morphine, c'est la première substance, d'abord, qui est vraiment intégrée à la médecine contemporaine du 19e siècle, le premier psychotrope qui va être intégré à la médecine. C'est aussi la première substance avec laquelle on va décrire le phénomène de l'addiction, qu'on connaissait pas avant. Et c'est un produit qui, du coup, va être abandonné quasiment tout au long du XXe siècle en médecine, où on va presque plus utiliser cette substance qui, pourtant, est indispensable pour soulager les douleurs. Donc, voilà, ça a un impact très, très important de santé publique si on n'utilise pas la substance qui permet le mieux de soulager les douleurs. Donc, voilà, essayer d'étudier comment est-ce qu'une substance est intégrée à la médecine, pourquoi est-ce qu'à un moment on l'abandonne et qu'est-ce qui fait qu'à une période plus récente on s'intéresse à nouveau à ses propriétés thérapeutiques et on la réhabilite au point qu'aujourd'hui les gens ne pensent plus, quand on dit morphine, ils ne pensent pas à drogue dangereuse absolument, ils pensent tout de suite plutôt à un côté médical. Et donc ce travail historique permet, en tout cas je l'espère, petit à petit de voir les mécanismes sous-jacents qu'il y a dans nos représentations pour éviter qu'on reproduise en fait systématiquement ces cycles de découverte, d'enthousiasme et puis ensuite d'abandon, de rejet d'une substance qui est efficace en médecine. Là, par exemple, en ce moment, on est en train de revivre ce cycle-là pour la kétamine. Et donc, du coup, mon travail permet aux décideurs politiques, aux médecins, de dire attention, c'est ce mécanisme-là, on le connaît. Si on diabolise trop la kétamine utilisée en médecine, on va petit à petit arrêter de l'utiliser et ça va nuire aux patients.
Alors, rentrons donc dans le vif du sujet, les psychédéliques. Et on va commencer par les resituer. Depuis quand est-ce qu'on les connaît, du moins en Occident, et comment est-ce qu'ils sont arrivés dans l'univers médical et thérapeutique, Zoé ?
Alors, c'est très difficile de savoir depuis quand on consomme des psychotropes de manière générale et des psychédéliques en particulier, puisque c'est des produits qui sont issus des plantes, donc qui sont périssables. On ne trouve pas des traces très anciennes. Et en plus, avec la colonisation, on a détruit aussi un très grand nombre de traces d'utilisation de ces produits, par exemple en Afrique ou en Amérique du Sud. On sait qu'il y a certainement eu des usages pendant l'Antiquité, notamment par exemple de champignons à psilocybine en Europe, mais c'est très peu documenté pour l'instant par des historiens et des historiennes, c'est plutôt des amateurs qui ont fait ce type de recherche. Donc pour l'instant, on est au tout début de la reprise des recherches, que ce soit en science, mais aussi en histoire sur ces questions. Donc voilà, on sait que ça a certainement été utilisé pendant l'Antiquité, on ne saurait pas dire très précisément comment. Ensuite, il y a eu toute une période très longue où ces substances étaient totalement diabolisées, et vraiment là au sens propre pour le coup, par l'Église chrétienne, qui considérait que la modification de l'esprit, c'était un moyen pour le diable de se jouer de nous, de se servir de nous. Donc c'était absolument interdit. Et donc même si les champignons à psilocybine poussent en Europe, vraisemblablement les gens ne les consommaient pas parce qu'ils en avaient très peur. Et puis au moment de la colonisation, il y a eu quelques contacts, notamment en Amérique du Sud, avec des populations qui faisaient usage de ce type de substances. Mais là encore, comme c'était dans un prisme chrétien, ça a été tout de suite condamné, les gens ils ont été massacrés, etc. Et c'est seulement à la fin du 19e siècle en fait, que les scientifiques et les médecins occidentaux ont vraiment découvert ces produits, notamment à partir du peyote, qui était utilisé par les populations d'Amérique du Nord cette fois, pour faire des cérémonies qui visaient notamment à soigner les personnes de leur communauté qui étaient dépendants à l'alcool. Et voyant que ça marchait, dans un certain nombre de cas, les médecins ont ramené le peyote dans leur laboratoire, en ont extrait la mescaline, et à partir de là, au début des années 1920, ça commence à être une substance qui est utilisée dans la pharmacopée occidentale.
Donc c'était la mescaline qui était la première à être étudiée ?
Oui, tout à
fait. D'accord. Et on va discuter un peu davantage de ce point dans la deuxième partie de l'échange, mais en médecine, ils étaient utilisés pour traiter quoi, en fait, ces psychédéliques ?
Alors, à l'origine, les effets, comme on ne les comprend pas très bien, la société occidentale, elle n'a pas des centaines, voire des milliers d'années d'usage de ces produits, donc elle n'a pas acquis de vocabulaire pour décrire ces effets. Et comme c'est les psychiatres qui s'en saisissent en premier, les effets des psychédéliques vont être décrits comme similaires à ceux des psychoses. On pense que ça plonge dans un état qui est similaire à celui de la folie. Donc à l'origine, c'est des substances qui vont être utilisées pour faire des expériences sur le cerveau chez des personnes qui ne sont pas malades. On va les plonger dans un état qu'on considère comme étant une forme de folie pendant quelques heures pour voir comment les symptômes se développent. Et puis par ailleurs, on va les administrer à des patients qui sont psychotiques pour essayer de les guérir, pour provoquer un espèce de choc chez eux en voyant qu'on peut, de manière artificielle, provoquer un peu le même type de symptômes. On espère qu'ils vont abandonner leur maladie. Ça, c'est les premiers types d'usage. Et puis après, très rapidement, ça va être utilisé aussi dans le cadre des thérapies de choc. Ça, c'est un modèle de la psychiatrie de l'entre-deux-guerres, dans un contexte où la psychiatrie n'a pas encore de médicaments qui permettent de soulager les symptômes des gens qui sont dépressifs ou qui ont des addictions ou qui ont tout type de pathologies mentale, on va produire des chocs. Donc on fait des électrochocs, des lobotomies, des comas insuliniques, ce genre de trucs. Et les psychédéliques, ça rentre très bien dans ce contexte-là des thérapies de choc, parce qu'on peut injecter des fortes doses à des patients sans leur donner aucune information sur les effets qui sont attendus, les mettre dans une pièce tout seul, et puis on attend quelques heures et ça produit un choc. Mais en fait, assez rapidement, les médecins se rendent compte que ça traumatise les patients, et c'est pas du tout ça qui est attendu du concept du choc. Hein. On espère que ça les guérisse, pas que ça les traumatise. Donc il y a une partie des médecins qui vont abandonner ces médicaments, notamment en France, parce qu'ils restent dans ce contexte des thérapies de choc, ces conceptions-là. Et puis il y a d'autres thérapeutes en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, puis après dans tout le reste du monde occidental, qui vont inventer des psychothérapies assistées par psychédéliques. Donc là, c'est un tout nouveau modèle de la psychiatrie qui se développe à l'aide de ces substances pour approfondir le processus thérapeutique.
Je te propose qu'on revienne là-dessus en deuxième partie, plus en détail, et notamment dans l'invisibilisation.
Il est dur à dire ce mot.
C'est très dur à dire. De plusieurs femmes que toi, t'as pu étudier en détail, qui ont participé au développement de ces thérapies. Là, je fais juste un petit bond dans le futur et passé, par rapport à ce qu'on parle. C'est en 1971, il y a un événement important qui a marqué l'histoire de la médecine psychédélique. C'est la convention sur les substances psychotropes convoquée par l'ONU, qui a classé ces différentes substances psychotropes en 4 tableaux, selon leur potentiel d'abus, leur potentiel thérapeutique. Et les psychédéliques, comme le LSD, se sont retrouvés classés dans le tableau 1, comptant les substances à fort potentiel d'abus et n'ayant peu ou pas de potentiel thérapeutique. Est-ce que tu peux nous remettre juste dans le contexte de cette époque et ce qui a mené à ce classement, Zoé ? Et ensuite, on reviendra sur l'histoire thérapeutique.
Oui, alors dans les années 60, le LSD en particulier, c'est l'un des médicaments les plus étudiés au monde. Il y a plein de recherches qui sont faites dans tout le champ de la psychiatrie, aussi dans le champ des addictions, dans le champ de la douleur, dans le champ de la fin de vie. Donc c'est vraiment un médicament qui a le vent en poupe. Mais au même moment, il y a de nouvelles manières d'étudier l'efficacité des médicaments qui se mettent en place dans la science contemporaine. C'est ce qu'on connaît toujours aujourd'hui, les essais randomisés en double aveugle contre placebo. Donc ça veut dire qu'on va faire deux groupes de patients, un groupe à qui on donne la substance qu'on est en train de tester, un groupe à qui on donne un placebo, et pour faire la preuve de son efficacité, le médicament qu'on teste doit être supérieur au placebo. Et en plus de cette information-là, le double aveugle, ça veut dire que ni les patients ni les médecins ne doivent savoir qui consomme le médicament et qui consomme le placebo, parce que ça va fausser les résultats. Ça marche très bien pour tous les médicaments normaux, mais ça ne marche pas du tout pour les psychédéliques, parce qu'au bout d'une demi-heure, vous allez très bien savoir qui a pris le placebo ou qui a pris le psychédélique. Donc ce changement de paradigme dans la médecine des années 1960 va poser de gros problèmes aux études sur les psychédéliques, parce que tout à coup, les médecins qui jusque-là présentaient des études de cas, donc on disait simplement, ben voilà, moi j'ai administré du LSD à 5 patients, ces patients ils ont telles caractéristiques et ça les a améliorés dans tel et tel aspect. Ben là, ça ne marche plus du tout. Ce n'est plus du tout valable de prouver l'efficacité d'un médicament en faisant ça. Donc, soudainement, les études sur les psychédéliques paraissent complètement dépassées, pas du tout objectives. Et donc, il y a un très gros problème de légitimité à l'égard de ces recherches. Ce contexte-là, s'il avait été tout seul, il aurait très vite été dépassé. Par exemple, on aurait fait des études en comparant des petites doses avec des fortes doses ou un médicament similaire au médicament contesté, par exemple à du LSD. Et c'est ce qu'on fait du coup aujourd'hui dans les études qui reprennent. Et ça aurait permis de dépasser ce problème. Mais dans les années 60 aussi, il y a toute la contre-culture aux États-Unis qui va venir peser sur ce contexte scientifique lié aux psychédéliques, avec une partie de la jeunesse américaine notamment, qui se rebelle contre la guerre au Vietnam, qui ne veut pas des lois ségrégationnistes, qui veut la liberté sexuelle, etc. Et tout ça, ça fait très peur à la société américaine. Et il s'avère que parmi ces jeunes, il y en a qui fument du cannabis et il y en a qui prennent du LSD. Et donc médiatiquement d'abord, et puis ensuite le gouvernement va s'en servir aussi, on va cibler ces substances pour les montrer comme responsables des égarements de cette jeunesse américaine. Et donc, on va interdire ces produits. Ces deux aspects, du coup, l'aspect de méfiance à l'égard des études psychédéliques associées au fait que de plus en plus, c'est lié à la contre-culture, avec aussi des médecins qui font des recherches sur les psychédéliques, qui appartiennent aussi à la contre-culture, ça fait que c'est de plus en plus décrédibilisé, c'est de plus en plus marginalisé. Et la France, c'est le premier pays à classer les psychédéliques en fait, dans la liste des stupéfiants en 1966, avant même les États-Unis, parce qu'il y a une panique morale, on voit ce qui se passe aux États-Unis et on se dit « Ouh là là, il ne faut surtout pas que ça arrive en France, donc on interdit en premier ». Et effectivement, en 1971, au niveau international, il y a cette loi qui intervient et qui met un terme aux études sur ces substances. C'est pas un arrêt brutal, hein. Les études elles vont continuer tout au long des années 70, mais juste elles vont se réduire de plus en plus jusqu'à aboutir à ce qu'on arrête totalement de faire des recherches sur ces produits.
Il est maintenant temps pour une petite pause musicale et on va écouter un morceau de musique psychédélique turque qui a justement été enregistré en 1971, Adaletin Bumu Dünya, de la musicienne Selda Bağcan. On a écouté Adaletin Bumu Dünya de Selda Bağcan, qui veut dire « Est-ce ça ta justice monde ?» de son album « Özgürlüğü ve Demokrasi Çizmek » qui veut dire « Dessiner la liberté et la démocratie » en français. On parlait de l'histoire des psychédéliques et comment l'arrêt des recherches dessus a été imposé. Mais avant qu'on entre dans cette période de prohibition, la recherche sur les psychédéliques était très active, comme tu le disais, Zoé. Les noms qu'on mentionne habituellement comme personnalités phares dans l'histoire du domaine sont nombreuses et ont toutes un point en commun. Je vais vous en lister quelques-unes et je vais vous laisser deviner. Albert Hoffman, Timothy Leary, Ronald Sandison, Stanislas Grof, Humphrey Osmond. Une idée de ce qu'ils ont en commun autour de la table ?
Oula, c'est des femmes.
Du coup, en effet, tous des hommes. Toi, Zoé, tu t'es tout particulièrement intéressée à l'invisibilisation des femmes dans la recherche sur les psychédéliques en te focalisant sur les évolutions méthodologiques élaborées par des femmes thérapeutes travaillant avec le LSD dans les années 1950 à 1970. Pour introduire le sujet, est-ce que tu peux commencer justement par nous parler de l'évolution des types de thérapies impliquant les psychédéliques ?
Oui, alors comme je le disais, à l'origine c'est des thérapies de choc qui sont utilisées, c'est le cadre des thérapies de choc, et puis progressivement on va se dire bah, ça marche pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'expérience des patients, et à partir des auto-expérimentations de psychiatres, parce qu'à cette époque-là c'est nécessaire que les psychiatres auto-expérimentent le LSD avant de penser l'administrer à leurs patients, et donc eux ils le font chez eux, dans leur salon, ils écoutent de la musique, ils sont avec leurs amis, ils peuvent marcher dans leur jardin, etc., bah, ils se rendent compte qu'il y a une très grande différence entre leur expérience à eux qui sont très positives, très positives, très lumineuses, très joyeuses, et celles de leurs patients qui sont très sombres, très anxiogènes, etc. Et donc ils vont se dire, bon ben, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette différence ? C'est le set et le setting. Donc c'est ces deux concepts, c'est-à-dire l'état d'esprit de la personne, est-ce qu'elle va bien, est-ce qu'elle est heureuse dans sa vie, est-ce que tout est fait en sorte pour qu'elle ait les bonnes informations sur comment va se dérouler l'expérience. Et le setting, c'est le cadre, donc est-ce qu'elle est dans un endroit confortable, dans lequel elle se sent bien ou pas. Et donc ils vont chercher à améliorer l'expérience des patients et à approfondir le phénomène de psychothérapie grâce à ses effets notamment de reviviscence de souvenirs et puis d'associations d'idées très rapides qu'on peut faire sous psychédélique. Et donc, ils vont inventer deux modèles de psychothérapie. Le premier, c'est celui qu'on a adopté aujourd'hui, c'est la thérapie psychédélique, donc où on administre une à trois fois du LSD ou un autre psychédélique à haute dose. Et là, le but, c'est de faire vraiment une expérience profondément transformatrice. Et ensuite, à l'issue de ces séances, on va faire des séances d'intégration pour retravailler sur tout ce qui aura émergé pendant les séances. Et des séances de thérapie psycholytique, où là, on administre d'abord de faibles doses qu'on augmente progressivement et on fait un beaucoup plus grand nombre de séances, on en fait une trentaine en général. Et là, il y a de la psychothérapie même au fur et à mesure des séances. Et il y a toujours ensuite les séances d'intégration derrière. Donc, il y a ces deux modèles de psychothérapie qui vont coexister dans les années 50-70.
Et dans l'évolution et l'amélioration de ces thérapies, il y a donc des personnalités qui ont été effacées de l'histoire, auxquelles tu t'es intéressée, des femmes, notamment trois thérapeutes. Margot Kuttner, Joyce Martin et Betty Eisner. Quelles étaient et qui étaient-elles, ces femmes, et quelles ont été leurs contributions dans le développement de ces thérapies psychédéliques?
Alors, Betty Eisner, c'est une psychologue américaine. Joyce Martin, c'est une psychiatre et psychanalyste anglaise. Et Margot Kuttner, c'est une philosophe à l'origine. Et puis, elle va fuir l'Allemagne nazie parce qu'elle est juive. Elle va trouver refuge en Angleterre. Et là, elle devient psychanalyste. Donc, ces trois thérapeutes qui sont très importantes dans le champ des psychédéliques à leur époque, qui écrivent les articles scientifiques les plus lus, les plus commentés, les plus discutés. Elles participent aussi aux conférences internationales sur le LSD. Et finalement, avec un petit peu moins pour Margot Kuttner, parce qu'elle est un peu plus invisible à ce moment-là, mais Joyce Martin et Betty Eisner, c'est vraiment dans le top 5 des thérapeutes les plus importants à l'époque, et elles sont reconnues comme telles par la communauté internationale, parce qu'elles vont amener quelque chose de nouveau dans la thérapie, qui est l'importance du toucher. Donc sous psychédélique, elles disent qu'il faut absolument toucher les patients, d'ailleurs c'est quelque chose que les patients demandent, parce que ça les rassure, ça les permet de les ancrer dans le réel quand parfois ils partent un peu trop dans leur esprit, mais elles considèrent aussi que le toucher est vraiment thérapeutique, parce que ça va permettre à certains patients qui ont manqué d'amour pendant leur enfance, bah de guérir cet aspect-là de leur parcours, de leur trajectoire, grâce au toucher, grâce à vraiment en prenant dans les bras leurs patients, en les berçant par exemple, pendant parfois de longues minutes, voire pendant une heure entière, en les berçant dans leurs bras, ça va leur permettre de faire une expérience d'amour maternel inconditionnel, et donc ça sera profondément thérapeutique. Et à l'époque, c'est vraiment perçu comme quelque chose de très novateur et de manière positive par leurs collègues, même si leurs collègues masculins principalement considèrent que c'est des propositions qui sont intéressantes, mais qui le sont pour elles en tant que femmes et que eux en tant qu'hommes ne peuvent pas prendre ce rôle de maternage. Qui donc doit être dans leur service quand ils acceptent de me le mettre en place, ça doit être pris en charge par les infirmières, puisque à leur tour, en tant que femmes, c'est leur rôle dit naturel de faire ce type de prise en charge.
Et c'est aussi, moi j'avais noté que Betty Eisner, c'est celle qui a déterminé le fait qu'il ne fallait pas laisser le patient tout seul, c'est ça?
Oui, Betty Eisner, c'est vraiment la thérapeute de l'époque qui développe le plus de techniques pour sécuriser l'expérience psychédélique, parce qu'elle a fait deux expériences elle-même qui sont très traumatisantes pour elle, dont une où on l'a laissée toute seule à sa demande. Voilà, elle avait envie d'expérimenter les effets du LSD toute seule, et en fait ça la plonge dans un état de grande détresse, et elle se promet qu'elle ne fera jamais vivre ça à ses patients. Donc elle dit, elle est la première à dire qu'il ne faut jamais laisser les patients seuls. Elle va aussi dire qu'il faut qu'il y ait en permanence deux thérapeutes avec les patients, un homme et une femme, pour pouvoir faciliter le processus de transfert, donc pour que le patient ou la patiente puisse se représenter les thérapeutes comme leur mère ou leur père, et faire les projections dessus de ce qui les a traumatisés pendant leur enfance. Et c'est aussi l'une des premières à dire qu'il faut utiliser la musique, que la musique est thérapeutique, donc elle a vraiment une importance cruciale à cette époque.
Et il y a aussi quelque chose qu'on a mentionné en substance, notamment avec la thérapie de fusion avec la mère, c'est qu'à l'époque, le contexte de la psychiatrie, c'est autour de la psychanalyse qui est assez dominante. À quel point ça joue ça dans le développement de ces thérapies à cette époque? Et puis comment ça change après?
Oui, alors toutes ces thérapeutes, elles ont une formation psychanalytique. Betty Eisner, elle est jungienne, et les deux autres sont freudiennes. Et donc pour elle, la place évidemment de l'expérience infantile, elle est essentielle. Et donc Joyce Martin développe cette technique de la fusion pour certains patients très particuliers qui ont vraiment manquer d'amour maternel, parce qu'à l'époque, on ne pense pas du tout, l'amour du père n'existe pas dans les années 50. Donc, ces personnes qui ont manqué pendant leur toute petite enfance d'amour maternel, au point que ça aurait pu... ils auraient pu se laisser mourir. Hein. En fait, il y a des études à cette époque qui montrent que les enfants, par exemple dans les orphelinats, quand ils ne sont pas touchés suffisamment, quand ils ne reçoivent pas suffisamment d'amour, ils peuvent se laisser mourir. Donc Joyce Martin, qui est très influencée aussi par ces recherches-là, va se dire qu'elle va donner de fortes doses de LSD à ses patients et petit à petit, au fur et à mesure des séances, se rapprocher de plus en plus d'eux, toujours en leur demandant leur consentement, jusqu'à à la fin se coucher dans un lit avec eux et les serrer dans ses bras pendant une heure et demie en les berçant, pour leur faire vivre cette expérience bouleversante. Et elle dit que c'est très thérapeutique. Mmh. Et voilà, c'est quelque chose qui est très informé, évidemment, par la psychanalyse, avec toute une réflexion sur la sexualité. Et pour ces thérapeutes, ces expériences de fusion, ces expériences de toucher très profond, interviennent à un niveau qui est avant la sexualité. Donc elle propose des concepts psychanalytiques qui dépassent Freud, puisque pour Freud, la sexualité, c'est vraiment la première étape du développement infantile. Et pour ces thérapeutes féminines, la question du toucher, la question du contact physique, mais non sexuel, intervient encore avant. Et donc c'est là qu'il faut aller chercher la guérison, puisque c'est le premier moment de développement des enfants.
Donc elles ont proposé des choses très novatrices et elles ont eu des contributions très importantes. Comment ça se fait qu'elles ont été invisibilisées, ces femmes thérapeutes ?
Alors le processus d'invisibilisation, il est assez commun en général aux femmes dans tous les domaines, hein, que ce soit les domaines artistiques et donc scientifiques. À partir du moment où une femme scientifique décède, on va moins la citer dans les travaux ultérieurs, on va moins faire référence à son travail. Et puis il y a aussi l'effet Mathilda, qui est aussi là très bien documenté, qui c'est un concept en sciences sociales qui montre que on a tendance à attribuer les réussites scientifiques d'une femme à ses collègues masculins. Donc ces deux effets vont jouer très profondément sur ces femmes. Par exemple, les concepts de set and setting qu'elles ont participé très fortement à développer, eh bien, c'est Timothy Leary qui invente l'expression set and setting. Timothy Leary, c'est un psychologue américain. Et donc comme c'est lui qui a inventé l'expression, eh bien, on va lui attribuer toutes ces techniques-là, alors que lui arrive bien après l'invention de ces méthodes par ces femmes notamment. Donc ça, c'est des phénomènes qui sont communs à toutes les femmes scientifiques, mais en plus, dans le cas de ces trois femmes particulièrement, le contexte d'abandon et de rejet des psychédéliques va aussi jouer en leur défaveur, puisque pendant une quarantaine d'années, ces recherches-là, elles vont être vues par la communauté internationale scientifique comme des recherches dont il ne faut plus du tout parler en général, qui sont un égarement de la science occidentale, une honte absolue, et donc on n'en parle pas. Donc dans ce contexte, ça accroît aussi l'invisibilisation. Et puis pour chacune des femmes, Margot Kuttner, elle change de métier au cours des années 60, elle va devenir sage-femme, donc elle n'est plus là pour maintenir aussi sa mémoire. Joyce Martin va mourir brutalement en 1969 d'un cancer, donc c'est la même chose. Dans les années qui suivent, elle n'est pas là pour dire « attendez, ça c'est ma méthode et vous ne pouvez pas vous l'attribuer comme ça ». Et puis Betty Eisner, qui elle va mourir en 2004, donc qui à bout de bras va vraiment essayer de tout faire pour maintenir sa mémoire. Et ben Betty Eisner, c'est aussi une thérapeute qui est quand même assez problématique, puisqu'elle, dans les années 70, elle va créer une sorte de secte, donc elle est aussi très marginalisée dans le milieu psychédélique. Donc tous ces facteurs-là font que ces femmes, elles ont été totalement effacées de l'histoire des psychédéliques.
Mais ce sont d'ailleurs pas juste des femmes thérapeutes qui ont contribué aux recherches en fait sur les psychédéliques. Erika Dick, donc l'historienne canadienne, parle dans son livre Psychedelic Psychiatry, d'autres femmes qui étaient importantes dans le domaine. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu ?
Oui, il y a plein de femmes qui ont... Ça a été une des grandes découvertes pour moi, de découvrir qu'il y avait autant de femmes qui avaient joué un rôle dans l'histoire des psychédéliques, au sens beaucoup plus large, là, du coup. Et si ça intéresse des personnes parmi les auditeurs et les auditrices, il y a le site Chakruna qui a fait une chronique, c'est Erika Dick qui la dirige, pour mettre en valeur toutes ces femmes. C'est accessible, c'est en anglais, malheureusement, mais c'est accessible librement sur Internet. Qui montre l'importance, par exemple, des infirmières ou des épouses des psychiatres dans le développement des techniques de psychothérapie assistée par psychédélique. Or, ces femmes-là, elles disparaissent totalement puisqu'elles ne sont pas citées dans les articles scientifiques, même si c'est elles qui étaient au contact des patients, si c'était les infirmières, ou si c'est elles qui mettaient par écrit les théories de leur mari, et donc sans elles, les articles n'auraient jamais pu être écrits. Donc ça, c'est une partie de ces femmes, mais il y a eu aussi beaucoup de psychonautes. Donc les psychonautes, c'est les gens qui font des expériences avec les psychotropes. Il y a eu par exemple Anaïs Nin, qui est une écrivaine française, qui a beaucoup écrit sur le LSD. Il y a plein de personnes, des médiums, des artistes, plein de femmes différentes qui ont joué un rôle, des chamanes aussi. Et si on va plus largement, vraiment dans tout le monde non occidental, il y a aussi beaucoup de femmes, par exemple Maria Sabina, qui est une chamane mazatèque, donc un peuple du Mexique. C'est grâce à elle que les Occidentaux ont découvert l'existence des champignons à psilocybine dans les années 1950.
Oui, donc on voit qu'il y a tout un tas d'actrices qui ont été effacées de l'histoire. Malheureusement, on approche déjà de la fin de l'interview. Donc, peut-être une dernière question assez rapidement. Toi, tu es historienne, donc c'est peut-être plus inhabituel de te poser des questions sur l'avenir. Mais en ce moment, il y a un développement et un renouveau du psychédélique et de l'usage médical et de nouvelles recherches qui sont en train d'évoluer, et notamment en France. Comment, toi, tu vois cette renaissance psychédélique actuelle ?
Ben, je la vois de manière très positive. C'est hyper riche, hyper intéressant de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui témoignent de leurs usages. Il y a une déstigmatisation de ces pratiques dans le grand public, donc ça rend les choses très intéressantes. L'intérêt du corps médical et scientifique sur ces produits aussi, c'est passionnant de voir... De voir les recherches qui se font, de voir aussi la manière dont l'histoire un petit peu se répète sur certains sujets, où on tâtonne, où on refait un petit peu les mêmes erreurs parfois. Donc voilà, tout ce foisonnement autour des psychédéliques est très intéressant. Il y a une très grande différence par rapport à la période des années 50-60, c'est que la médiatisation, elle est très positive. Il n'y a pas d'article sous forme de panique morale sur les psychédéliques en ce moment, pour le moment. Donc ça, c'est très intéressant aussi à voir. Le milieu médiatique soutient plutôt ces recherches dans un contexte aussi où on est dans une impasse thérapeutique pour plein d'indications, par exemple dans la dépression, dans le stress post-traumatique. Il y a un pourcentage élevé de patients qui ne répondent pas aux traitements qui sont disponibles, et visiblement, les psychédéliques semblent être intéressants dans ces pathologies-là. Donc le fait que au niveau médiatique, il y a un soutien, c'est très intéressant. Et moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup pour le futur de ces produits, c'est de savoir, est-ce que le corps médical va créer un monopole autour de ces substances et donc continuer à interdire leur utilisation par le grand public? Je pense que ça serait vraiment dommage. Ça serait plus intéressant que cette renaissance psychédélique permette une nouvelle approche des stupéfiants et une stabilisation, une amélioration de cette législation pour dire que finalement les adultes, avec les bonnes informations, devraient pouvoir consommer les substances qu'ils le souhaitent et pas être forcés de consommer juste de l'alcool et du tabac. Et puis au niveau vraiment strictement médical, il y a aussi plein de questions qui vont se poser dans les années prochaines parce que les thérapies assistées par psychédéliques, ça coûte très cher à court terme. Donc qui va financer ça ? Est-ce que l'État, qui pour l'instant n'est pas du tout dans une démarche de financement des hôpitaux et de la santé publique en général, va rembourser ce modèle thérapeutique ou pas ? Est-ce que ça va être réservé à une élite ? Tout ça, c'est des questions qui sont absolument passionnantes à découvrir dans les prochaines années.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Zoé. Et pour prolonger ces questions, je crois que tu sors bientôt un livre. Alors, je ne sais pas s'il y a une date de sortie, notamment sur l'invisibilisation des femmes dont on a parlé. Oui, tu sais pas trop.
Non, ouais, pas bientôt, c'est jamais bientôt à l'université, dans le milieu académique. Bon, mais par contre, j'ai plein de contenus déjà, des articles, des vidéos, etc.
Voilà, oui, on peut te retrouver ta chaîne YouTube Zoé Dubus, puis te suivre sur les réseaux pour suivre
Merci
un peu tout ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et maintenant, on va continuer avec le reste de l'émission en enchaînant tout de suite avec la chronique de Sian et de Thomas. Mais avant ça, un petit moment de pub.
Spirit Voyage présente le séjour qui changera votre vie, ou au moins votre transit. Destination, l'intérieur de vous-même, dans un cadre naturel avec moustiquaires semi-propres, ayahuasca, lianes, vision et parfois vomi. Réservez maintenant. Place limitée par la gravité de vos traumas. Paiement en trois fois sans frais karmiques. Depuis une dizaine d'années, nos influenceuses préférées ne prennent plus de billets pour Bali, mais pour Iquitos au Pérou. Le but, participer à des cérémonies chamaniques encadrées, dans le meilleur des cas par des guérisseurs traditionnels, et dans le pire par Jérôme, chaman auto-certifié sur Instagram, ancien banquier en reconversion. Rien qu'en 2019, on comptait jusqu'à 70 centres de retraite ayahuasca rien qu'à Iquitos, pour environ 20 000 touristes par an. C'est-à-dire environ 17 millions de dollars dépensés en voyage spirituel avec salle de bain partagée. À ce prix-là, autant espérer recracher au moins 2 traumas. Le problème, c'est que ce tourisme intérieur a des effets très extérieurs. Les plantes utilisées, Banisteriopsis capi et Psychotria viridis, sont aujourd'hui surexploitées.
Et oui, en effet, l'ayahuasca, c'est une décoction préparée à partir d'un mélange d'une liane connue sous le nom de mariri et de feuilles d'un arbre appelé chacruna. Le principe actif de ces dernières, la diméthyltryptamine, ou DMT, est un puissant psychotrope. Petit bémol, ces deux plantes poussent naturellement au beau milieu de la forêt amazonienne. Étant donné que la DMT est classée comme stupéfiant dans de nombreux états depuis 1971, y compris en France depuis 2005, les curieux et curieuses devront faire quelques milliers de kilomètres vers l'Amérique latine, bien souvent en avion, pour en expérimenter les effets, plus ou moins légalement. Et si quelques rituels chamaniques traditionnels ont un impact totalement négligeable sur les ressources naturelles, c'est une autre histoire quand des milliers de riches occidentaux rêvent de vivre cette expérience psychédélique, spirituelle et parfois thérapeutique. Avec une demande internationale en constante hausse, ce tourisme participe activement à la déforestation, souvent au profit de monocultures, car il devient plus rentable de couper l'arbre en entier plutôt que de récolter quelques feuilles. Bon, vous l'aurez certainement deviné, l'agence Spirit Voyage dont a parlé Sian au début de cette chronique n'existe pas vraiment. Désolé de vous décevoir. Mais elle s'inspire d'un phénomène bien réel, car ces agences de voyage pullulent et la plupart proposent des forfaits chamaniques. Toute l'année, des villes entières, du Pérou, du Brésil, du Mexique, etc., se peuplent de touristes pour le plus grand plaisir des compagnies aériennes et des tours opérateurs, et au détriment des populations locales. Dans un article pour l'hebdomadaire brésilien Carta Capital, le guérisseur Maynes explique, je cite, « Beaucoup de personnes investissent dans le secteur chamanique, gagnent des fortunes avec des forfaits touristiques hors de prix, mais ils payent très peu ce qu'ils engagent pour effectuer les cérémonies. » Fin de citation. Et oui, coup dur pour les disciples du libéralisme, il semblerait que l'argent ruisselle surtout entre riches. Ce business du tourisme psychédélique participe directement à une forme de néocolonialisme dans ces pays en développement. Par exemple, au Pérou, où plus de la moitié de la population des zones rurales vit sous le seuil de pauvreté et où les inégalités économiques explosent. Mais l'Amérique latine n'est pas le seul parti du globe à surfer sur l'essor des médecines alternatives. Avec la répression des stupéfiants qui s'intensifie dans de nombreux pays occidentaux, les retraites thérapeutiques à coups de psychédéliques se multiplient. Dans un étonnant article de Vogue intitulé « Ces adresses où s'initier aux drogues psychédéliques », microdosé et sous haute surveillance quand même, le célèbre magazine de mode propose par exemple de se rendre au Coral Cove Wellness Resort en Jamaïque à partir de 400$ les deux nuits. Oubliez tous vos problèmes. Vous pouvez prendre de la psilocybine microdosée après un massage et un bain sonore. Le tout guidé par, je cite, « un expert et un médecin naturopathe dont le rôle est de soutenir psychologiquement les participants ». Fin de citation. Au fond, ce qui peut être attirant dans ces expériences, c'est la promesse d'une déconnexion instantanée. Entre un monde du travail de plus en plus anxiogène et un management de plus en plus toxique, il faut réussir à optimiser son bien-être physique et mental. Et pour essayer d'éviter un quatrième burn-out à 35 ans, ça peut être tentant de claquer ses économies dans un voyage d'une semaine en Jamaïque pour tester des substances illégales dans notre pays d'origine. Plus sérieusement, ces nouvelles tendances touristiques délétères pour l'environnement et les populations locales s'inscrivent évidemment dans un système capitaliste et ultra-individualiste. Et tous ces enjeux sont éminemment politiques. On parle de santé mentale et on nous vend des expériences chamaniques hors de prix à l'autre bout du monde, alors que toutes les données scientifiques nous exhortent à repenser notre organisation collective et à stopper la répression autour de certaines substances.
Merci pour cette chronique, Thomas et Sian. Place à la deuxième pause musicale. On va écouter un incontournable du rock psychédélique des années 60, White Rabbit de Jefferson Airplane.
One pill makes you makes you small, and the ones that mother gives you. When she's 10 feet tall, and if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell 'em a hookah smoking caterpillar has given you.
On vient d'écouter White Rabbit, une chanson écrite par Grace Slick et enregistrée par Jefferson Airplane. Et c'est désormais l'heure de retrouver Luna pour ses gorgées de science.
Bonsoir tout le monde, c'est parti pour des gorgées des sciences, mais sans alcool ce soir. Aujourd'hui, il est temps de voir si les études cliniques montrent ou pas que les psychotropes peuvent nous aider à lutter contre nos addictions. Oui, vous avez bien entendu, ces substances qu'on pointe du doigt, comme les drogues, tous les dangers, sont en réalité de potentiels alliés de la lutte contre l'addiction, quand elles sont bien utilisées, bien sûr. Mais peut-être qu'à ce stade de l'émission, plus personne n'est vraiment surpris. En France, nous ne sommes pas les plus avancés sur la question de la science des psychotropes. Tout simplement, il n'y a eu aucune étude clinique sur le territoire depuis les années 60, et ce jusqu'en 2024. Au début de l'année dernière, une équipe du CHU d'Orléans, en lien avec Paris, a lancé les tests sur la psilocybine, une substance que les consommateurs et consommatrices de champignons hallucinogènes connaissent bien. Leur but est d'observer si la psilocybine donc pouvait aider à gérer la dépression due au sevrage d'alcool. Leur théorie, c'est que la psilocybine va augmenter le taux de sérotonine, donc ce qui vous rend heureux, au niveau des récepteurs du cerveau, ce qui permettrait d'améliorer l'humeur de la personne en situation de dépendance. Et aller mieux, sans surprise, bon, ça rend les gens heureux, ce qui est bien en soi, mais ça aide aussi à ne pas rechuter après le début du sevrage. Cette méthode pourrait même permettre de lutter contre d'autres addictions, comme le tabac par exemple, la première cause de mortalité en France chaque année. Cette étude française est toujours en cours, donc on attend encore les résultats officiels, mais d'après le docteur Raphaël Serrault, qui y participe, les premiers résultats seraient encourageants. Bon, pour l'actualité des études cliniques en France sur les psychotropes, c'est à peu près tout, donc j'ai dû aller revoir mon anglais et voir ce qui se passait ailleurs. L'université de Brown, aux États-Unis, a lancé une étude sur les effets de la MDMA pour traiter les troubles de stress post-traumatique ainsi que l'addiction à l'alcool. Ces tests ont été faits sur des vétérans de guerre et Christy Capone, qui participe à l'étude, parle de résultats très enthousiasmants. Dans la phase 3 d'une autre étude, les chercheuses et chercheurs ont annoncé que 88% de leurs patientes et patients observaient une baisse significative des symptômes. Et au bout de 2 mois de traitement, 67% n'avaient tout simplement plus les symptômes requis pour qu'on considère qu'ils avaient encore un trouble de stress post-traumatique. Donc là, on a envie de dire qu'ils étaient guéris, quoi. Enfin, mais bon, c'est un peu trop tôt pour le dire, évidemment. Une autre étude menée par l'université d'Oslo en Norvège s'intéresse aux effets de la kétamine sur les troubles dépressifs majeurs. Là encore, les effets sont plutôt positifs. La kétamine, d'après l'article scientifique de cette étude, serait le psychotrope le plus étudié pour lutter contre la dépression. Les études montrent qu'elle est plutôt efficace en quelques heures et que ses effets resteraient jusqu'à plusieurs semaines après la prise du traitement et même après la disparition de la kétamine dans le corps humain. L'étude norvégienne qui était menée sur 350 personnes conclut que la kétamine 4 serait une option sûre et efficace pour des patients ayant peu d'alternatives thérapeutiques. Elle suit donc l'avis général de la littérature internationale.
Alors, je peux conseiller à mes amis de prendre de la kétamine pour soigner une dépression, c'est ça ?
Alors, oui, non, je rappelle tout de même à toutes les personnes qui nous écoutent que l'étude était encadrée en milieu clinique contrôlé. Donc, l'automédication n'est pas encore conseillée. On attend les prochaines études, peut-être. En France, la kétamine, elle est déjà utilisée, comme on l'a entendu tout à l'heure, pas des fins médicales depuis plusieurs années, mais uniquement pour pallier des douleurs chroniques ou pendant les soins palliatifs. Sur le territoire, la dépression est un vrai sujet. Il touche une personne sur cinq au cours de sa vie. Peut-être que la recherche sur les substances psychédéliques serait une voie à explorer.
Est-ce qu'il y a d'autres psychotropes qui existent dans la recherche médicale ?
Oui, bah, comme on l'a entendu tout à l'heure, j'avais écrit ça avant. D'autres substances sont étudiées à l'international, hein, comme le LSD, la mescaline, le cannabis et la coca. Mais tous les psychotropes du monde pourront-ils nous faire oublier qu'en ce moment, il fait chaud, Je dis pas ça à cause de l'odeur du studio, hein, je me permettrai pas. Il fait chaud au point que la Méditerranée a été frappée par une canicule marine. Une canicule marine, c'est quand la température à la surface de l'eau est anormalement élevée durant au moins 5 jours. Mais en fait, ça peut durer plusieurs années. Cela fait depuis 2023 que la température mondiale de l'océan est largement au-dessus de toutes les précédentes mesures. Les canicules marines posent des problèmes pour la biodiversité, la mort des espèces fixes comme les éponges ou le corail, bien entendu, mais aussi celles qui en dépendent. Cela est en fait en partie dû au fait que l'oxygène se dissout beaucoup moins bien dans une eau surchauffée, donc les poissons meurent d'asphyxie. Ces canicules causent aussi la migration des espèces pouvant s'enfuir et l'arrivée d'espèces potentiellement invasives. Et c'est ce qu'on observe depuis quelques années. La Méditerranée se tropicalise et de nouvelles espèces, comme le poisson lapin, viennent déséquilibrer l'écosystème local. Heureusement, des chercheuses et chercheurs de l'université de Zurich ont découvert un nouvel allié dans la lutte contre la concentration de carbone dans l'atmosphère, des figuiers du Kenya.
Mais c'est ce que font tous les arbres, non ?
Alors oui, c'est vrai, tous les arbres stockent du carbone, mais ces figuiers-là le font à la fois par la photosynthèse, la méthode classique, mais aussi d'une façon très particulière. Avec l'aide de bactéries présentes dans le sol, ils transforment le CO2 en carbonate de calcium, le principal composant. Est-ce que quelqu'un sait de quoi le carbonate de calcium est le principal composant ?
Je crois des coquilles de je sais plus quel crustacé, non ?
Ouais, bah en fait de la craie, et du coup la craie elle est faite souvent à partir de coquilles. C'est pas loin. Il reste quand même des points d'interrogation avant d'organiser d'immenses cultures de figuiers partout, même si la culture de figues est selon moi un argument suffisant en lui-même. C'est très bon quoi. Et on ne sait par exemple pas quelles sont les quantités de carbone qui seront stockées par ces arbres.
Merci beaucoup Luna pour ces petites gorgées. Et maintenant, pour finir en beauté, on retrouve Cléo qui va nous parler dans ce cap ou pas cap de musique et de psychédélisme.
Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous prenez pour un imbécile.
Alors, pour ce caps ou pas caps, nous allons parler donc musique. Pas de psychotropes prévus dans le studio pour accompagner ce jeu musical.
Oh,
et ouais, c'est décevant. Mais vous pouvez profiter de cette capsule sonore pour voyager un peu. Et surtout un peu dans le passé. La première question concerne le producteur britannique John Hopkins. En 2021, il a composé l'album Music for Psychedelic Therapy comme une sorte de bande-son qui serait un support à l'expérience psychédélique. On écoute. Vous voilà tous et toutes hyper apaisés.
Ah, mais vraiment,
ça marche
super.
Pas besoin de drogue.
Quelle est la particularité de cet album ? C'est la première question et il y a 4 propositions. Petit A. Chaque titre fait référence à une expérience de l'artiste avec des hallucinogènes, telle une sensation ou une couleur. Petit B. Sa durée d'écoute correspond à celle d'un trip sous psychédélique. Petit C. Il s'inspire de la reviviscence de souvenirs rapportés par des personnes ayant déjà fait un trip. Petit D. Il est conçu pour s'aligner avec les cycles de respiration du corps et induire la détente.
Ouais, tes réponses sont hyper élaborées.
Ah ouais, elles sont toutes bien. Hein.
Elles sont toutes.
J'avais peur que ce soit trop facile.
Moi, je dirais la B.
Moi, je dirais la A.
Ouais. Moi, la B, ça me semble. Enfin, c'est long, un trip sur psychédélique. Les musiques sont peut-être très longues, mais
remarque.
C'est la durée de l'album. Moi, je pense que c'est la B aussi, donc la durée de l'album.
Moi, je dirais plus sur le A.
Ok. C'était la B.
Ah, bah. Okay.
Ouais. Vous n'êtes pas mauvais. Donc, John Hopkins a expliqué à The Guardian que la durée d'écoute de l'ensemble des musiques de son album correspondait à la longueur moyenne d'un trip sous kétamine, soit 60 minutes et 3 secondes. Album qu'il a joué pour la première fois en public à Austin, au Texas, dans une sorte d'entrepôt qui réunissait 200 personnes installées sur des tapis de yoga. L'artiste a réalisé certains enregistrements d'ailleurs dans les grottes d'Équateur. C'est ce qui donne au son cette réverbération naturelle et un aspect méditatif que vous avez l'air d'avoir apprécié.
Tout à fait.
Beaucoup.
Avec cet album, Hopkins rejoint une vague d'artistes, de chercheurs et d'entrepreneurs qui utilisent la musique pour façonner la recherche et la thérapie psychédélique. Le psychédélisme est né dans les années 60, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, en lien avec la contre-culture hippie et l'usage de substances psychédéliques. Plusieurs branches musicales du psychédélisme émergent alors. Nous allons donc écouter 4 extraits. Parmi ces sons, l'un d'entre eux ne s'inscrit pas dans le mouvement psychédélique. Vous devez trouver lequel. Et il y a un petit piège.
Okay.
Donc on va écouter la proposition A. C'était la A, voici la B. Voici la C. C'est vrai qu'on aurait pu faire un petit blind test en même temps. Donc voilà, si vous avez les artistes ou le titre pour la dernière, n'hésitez pas.
On a.
Et on écoute la dernière. Alors, à vos pronostics.
Janis Joplin, la dernière?
Non.
Merde.
Je dirai après, peut-être.
J'ai cru la reconnaître. Alors les premières, il y avait les Rolling Stones au début, il y a eu les Beatles.
C'est la seule que j'ai.
Oui. Rolling Stones en premier, Beatles en troisième.
En deuxième, j'ai pas.
Moi non
ça
plus,
ressemblait
aux
Beatles aussi, mais c'était pas. C'était qui?
En deuxième, c'était Pink Floyd.
Ah, c'était Pink Floyd.
Moi, je pense du coup, c'est la B.
Vous pensez que c'est la B?
Je sais pas, les Beatles quand même, ils sont.
Alors, là, les Beatles, c'est assurément dans le.
Ah, mais peut-être que cette chanson est venue après.
Mais non, attends, Lucy in the Sky.
Lucy in the Sky, ouais, je sais pas.
Moi, je pense que c'est la B, mais donc pas celle.
Du coup, Pink Floyd?
Oui, Pink Floyd.
Moi, je dis la A pour être subversif.
D'accord.
Ok,
Pink Floyd, quand même pionnier du.
J'en ai aucune idée.
Ok.
Moi, je dirais la D, ouais.
Je suis contente, mon piège a bien fonctionné.
Mince.
Alors, en fait, c'était le premier, celui des Rolling Stones, I Can't Get No, puisqu'il est sorti en 1965, avant que le mouvement psychédélique ne s'installe vraiment, qui est donc plus vers 66-67. À cette époque, les Stones font encore du blues rock. Leur phase psychédélique, n'arrive que plus tard, avec le virage qu'ils empruntent via l'album Their Satanic Majesty's Request. L'album est d'ailleurs très très beau. À noter que 13 Floor Elevators, c'est ce jeu met vraiment mon niveau d'anglais à. Donc le quatrième son. C'était pas Janis Joplin, c'était ce groupe-là. Et donc c'était le premier à faire référence au psychédélisme en termes de sonorité et de musicalité. On va passer donc à la troisième question. Aujourd'hui, un projet musical emblématique incarne le psychédélisme moderne. Vous savez sûrement à qui je fais référence. Donc
Snoop Dogg.
Exactement. Voilà, fin du game. Donc à Tame Impala, dirigé par Kevin Parker, qui entretient une relation avec le psychédélisme autant dans sa forme musicale que conceptuelle. Il a fortement contribué donc à remettre ce style aussi au goût du jour. Donc voici la question. Une star de la pop a repris l'un des morceaux de Tame Impala dans un de ses albums. De qui s'agit-il? Est-ce que je fais les propositions ou pas?
Bah oui.
Ok. Vas-y.
Beyoncé, Ariana Grande, Rihanna, Billie Eilish. Qui a repris une chanson de Tame Impala.
Billie Eilish. Moi, je mettrais Billie Eilish.
Ouais,
je sais pas, toujours subversive, la meilleure. J'ai loupé son concert récemment, enfin, c'était guetté.
Tu veux en parler?
Ouais, j'aimerais
bien. Une thérapie sans psychotrope, peut-être. Ça pourrait être en 2016.
Ah, c'était en 2016. Ah, c'est pas Billie.
Plus compliqué pour...
Moi, je vais dire Ariana Grande aussi.
Ok.
Je n'ai aucune idée.
C'était Rihanna. Queen. Elle est nulle. Et là, on va se faire un petit kiff, on va pouvoir écouter.
Allez, on s'écoute ça. Feel like a brand new.
Et Et voilà, donc c'était Rihanna avec Some Old Mistakes. C'est vrai que j'avais jamais fait le lien, mais quand on écoute les deux sons l'un après l'autre, c'est très très proche. Et je vais peut-être m'arrêter là parce que je pense que sinon je vais dépasser.
Je crois qu'on a déjà dépassé, mais le montage sera là. Merci Cléo pour ce divertissant caps ou pas caps. Et merci à Zoé de nous avoir accordé son temps et son savoir. C'était Sacha et Ilona qui en animation. Merci à Thomas et Sian pour leur chronique. Merci à Luna pour les gorgées de science et à Jocelyn et Chiara à la technique. Et quant à vous, chers auditeurs, prochain rendez-vous de l'Happy Hour Scientifique le 14 août. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, @hhsscientifique, et à écouter toutes nos précédentes émissions en replay sur nos plateformes de streaming favorites. C'était Sacha et Ilona. Voilà, bonne soirée, et on se retrouve très bientôt. Au revoir.
C'était Ilona.
Bon, bah, il y a mes cheveux, hein. À la prochaine, et au revoir, et puis, bon retour, hein. Au revoir, messieurs.